Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord d'Écho de ma commune et de mon canton, présenté aujourd'hui par votre serviteur Christophe Jubien, et je vous propose de nous promener. Eh oui, partons en promenade dans les allées du Salon des Artisanales de Chartres, qui s'est déroulé du 7 au 10 octobre dernier à Chartres Expo, rendez-vous incontournable depuis plus de 22 ans déjà. Les artisanales offrent l'opportunité de découvrir la première entreprise de France durant 4 jours. Pourquoi la première entreprise de France? Eh bien, tout simplement parce que l'artisanat est, dans notre pays, le premier des employeurs. Chaque année, les artisanales accueillent plus de 83 000 visiteurs. Ça a été encore le cas cette année. Près de 500 exposants et 150 métiers s'ouvraient à la curiosité des visiteurs, d'où l'appellation plus grand des ateliers vivants. Je vous propose donc de nous promener dans les allées du Salon des Artisanales, nous laissant guider par les bruits, les images et les odeurs. Ça sent bon le chocolat par ici. Je sens déjà que vos papilles gustatives vont s'assouplir lorsque je vous aurai dit... Je suis près du stand de Jacques Bocquel, chocolatier créateur, et à mes côtés, Christine, qui est associée avec Jacques Bocquel, qui est vraiment mais un des dieux du chocolat en France, si j'en juge par tous les prix qu'il a obtenus. Hein.
Oui, effectivement, Jacques Bocquel est un chocolatier créateur d'Alsace.
C'est un chocolatier depuis très longtemps, c'est une marque très connue, moi je ne suis pas un spécialiste en chocolat.
Oui, il a 30 ans d'expérience.
Alors comment on devient comme ça un grand chocolatier ? C'est un artisanat évidemment purement local au départ. Et comment on passe d'une renommée locale à une renommée nationale, voire plus, hein, je crois, parce qu'il y avait eu un prix, par exemple, de l'Académie de chocolat de Londres.
Exactement, il a eu plusieurs prix, dont son carreau amande fleur de sel. Ensuite, il fait aussi beaucoup de choses à base de bons produits, comme la noisette du Piémont. Il fait une pâte à tartiner Nut Alsace avec 45% de noisette du Piémont, actuellement les meilleures du monde. Ensuite, il fait plusieurs produits comme des châtaignes, donc pralinées avec une pâte d'amande, ou des carreaux gourmands. Voilà, on a toutes ces choses.
Vous allez nous tuer là, arrêtez. Vous-même, comment êtes-vous venu au métier du chocolat ?
Par passion, j'adore le chocolat. Donc, et en plus, j'étais une fidèle cliente de M. Bocquel, puisque je viens de Saverne. Donc voilà, je le connais depuis longtemps, oui.
C'est-à-dire que vous êtes passée de cliente à productrice.
Exactement.
Alors, est-ce que c'est comment on devient chocolatier ? Il faut d'abord faire une formation de pâtissier. Quel est votre parcours à vous, tiens ?
Alors moi, je fais actuellement que de la vente. Je ne fabrique pas le chocolat, mais pour la fabrication, je pense qu'il existe des diplômes effectivement, et peut-être faire des apprentissages dans le domaine de la fabrication du chocolat.
Et donc, vous travaillez dans ce domaine depuis combien de temps ?
Un an, exactement aujourd'hui.
Et quand on est au milieu des chocolats comme ça, est-ce qu'on craque ?
Ah oui, bah toujours.
Vous faites beaucoup de foires, de salons un peu partout ?
Oui, dans toute la France, ça peut être dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Sud, n'importe où. Et actuellement, on est sur un projet d'ouvrir une boutique sur Troyes aussi. Donc mon compagnon et moi-même qui sommes en partenariat avec Monsieur Bocquel.
Et votre compagnon, lui, fabrique le chocolat ?
Non, pas du tout, il est comme moi, il vend.
Donc il y a une unité de production et plusieurs espaces de vente ?
Oui, il y a plusieurs boutiques. Donc en Alsace, vous avez à Saverne, là où il y a sa chocolaterie. Vous avez Strasbourg, Metz, Nancy, Colmar, Mulhouse et Troyes.
Alors, à quand une installation à Chartres ?
Bonne question. À voir avec le chocolatier. Donc voilà. Bah, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Une très bonne journée et à bientôt dans notre stand de chocolaterie.
À mes côtés, Jessie Vounet, qui est secrétaire des forges d'Autricom. Alors, c'est très impressionnant, vous prenez beaucoup de place, vous faites beaucoup de bruit, il y a de la fumée. Et on se croit revenu à... Allez, il y a deux siècles au moins, hein, quand on entendait l'enclume dans les villages.
C'est ce qu'on pourrait croire, mais ça reste un métier moderne. Un métier méconnu, et c'est pour ça qu'avec plus d'une quinzaine de forgerons, On a créé une association pour pouvoir se promouvoir les uns les autres, faire de la démonstration, partager des savoir-faire pour pas qu'ils disparaissent. Et puis, encore une fois, proposer au grand public la réalisation d'œuvres qui puissent voir vraiment l'avancée des produits, l'avancée des œuvres, d'un début à la fin, sans se retrouver avec un produit déjà fini sur lequel on ne comprend pas forcément tous les savoir-faire. Donc on a vraiment cette dynamique, on est tous entre la Beauce et le Perche, un petit peu l'Île-de-France, et depuis plus d'un an maintenant, on s'est réunis sur une association et on propose là aux artisanales qui ont eu la gentillesse de nous accueillir, et puis à des municipalités parfois, ce type de démonstration.
Où se cachent les forgerons, parce qu'on ne les voit plus?
Les forgerons sont réputés pour être un petit peu solitaires, un peu des ours, et il est temps qu'ils sortent, qu'ils montrent ce qu'ils font, et puis qu'ils se mettent un peu plus en avant, parce que beaucoup de gens disent, on se croirait il y a 100 ans, ou au Moyen-Âge, on l'entend beaucoup, mais c'est un métier moderne, vous voyez, on a du matériel moderne, de la soudure, mais aussi tout un savoir ancestral qu'on propose.
Ouais. Comment vous êtes-vous devenu forgeron, là?
Alors, j'ai un métier à côté, c'est venu par la passion de l'acier, la passion du petit garçon aussi, les épées, ce genre de choses, et puis beaucoup de petits garçons, je pense, et de petites filles aussi, parfois, et puis en découvrant, en rencontrant des gens, en se rendant compte aussi que certaines personnes veulent plus ou moins partager, et puis on avance petit à petit, on apprend de soi-même, des autres, et ça avance comme ça.
Et qu'est-ce que vous fabriquez?
Alors, avec mes collègues, on représente différents corps de métier, coutelier, ferronnier d'art, serrurier. Donc on fabrique tant de la coutellerie, des couteaux d'art, des grilles, des portails, la ferronnerie qu'on appellerait un peu plus d'art, des volutes, des feuilles qu'on va retrouver encore une fois sur des huisseries. On fabrique aussi des braseros, des éléments de l'utile et du beau, qui sont utiles tous les jours et qu'on essaie de rendre beau.
Et vous travaillez avec les mêmes outils qu'autrefois finalement?
Oui, la plupart de nos outils sont d'époque où on les refabrique, puisqu'on doit fabriquer bon nombre d'outils nous-mêmes. Et puis on utilise aussi des outils modernes, des meuleuses, des postes à souder, pour aller peut-être un peu plus vite dans la réalisation de certaines choses.
Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques-uns des outils?
Les enclumes classiques, les marteaux, les pinces. Vous voyez, il y a très nombreuses formes de pinces différentes, mais aussi de marteaux. Donc là, on est vraiment sur des choses classiques qui parlent tout de suite aux gens. Après, là, vous avez des forges qui sont soit de réalisation personnelle, donc des forges qu'on construit nous-mêmes, avec des ventilateurs. Vous voyez au fond, là-bas, une des forges qui a un ventilateur du début du siècle. C'est des forges qu'on retrouvait pendant la Première Guerre mondiale, en 1914-1918, où on refaisait sur les théâtres des opérations un certain nombre d'outils pour les soldats. On a après, vous entendez peut-être le bruit des disqueuses, des choses qu'on peut trouver chez le particulier qui achète ça dans les magasins de bricolage.
Et sinon, comment on devient forgeron? Est-ce qu'il y a des diplômes? Alors, est-ce qu'il y a une filière?
Il y a des diplômes. On a l'IFRAM, bien sûr, l'Institut français des arts métallurgiques. On a l'AFPA, qui propose à deux endroits en France le CAP de forgeron d'art. On a aussi des formations qui sont un peu plus rares. Il y a la seule représentation en France, c'est la formation que Eric qui est là a fait, qui est celle de coutelier forgeron à la forge, qui est une formation qu'il a fait dans le sud de la France avec Jean-Luc Soubiras, qui est quelqu'un de très connu en France. Et puis on a des formations aussi chaudronnier, soudeur, qui amènent aussi à la forge. Donc on trouve ces formations-là, on les trouve assez facilement.
Et j'imagine que les compagnons aussi, ça doit...
Oui, tout à fait. Aucun d'entre nous n'est compagnon, on a eu cette chance de pouvoir commencer très très tôt, mais c'est évidemment une formation incontournable.
C'est un métier d'homme fort, non?
C'est un métier d'homme fort, mais on y rencontre aussi des femmes, elles sont rares, mais on y rencontre des femmes, puisqu'il faut autant être fort que minutieux.
Donc ça, c'est un réel artisanat, quoi, comme autrefois, hein.
Oui, tout à fait. Et puis on œuvre vraiment pour que ça ne disparaisse pas. Et je ne pense pas que ça disparaisse parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et qui nous disent soit mon grand-père le faisait ou qui nous disent ah j'aimerais vraiment apprendre, parce que beaucoup de personnes, je pense, ont envie de créer des choses eux-mêmes, de pouvoir s'exprimer et avoir ce petit côté j'existe à travers ce que je sais faire.
D'accord. En tant que loisir, on a compris que ça pouvait marcher, mais comme métier, est-ce qu'on peut vivre de la forge?
Alors on peut en vivre, ça reste suspendu au fait d'être présent, de montrer ce qu'on sait faire, de pouvoir travailler à un rythme assez élevé, de prendre aussi les outils modernes pour aller plus vite, parce que pour couper une barre de fer, on peut la couper à la forge, ça prend un certain temps, c'est comme ça qu'on faisait avant, et puis on peut prendre une disqueuse, et là on gagne du temps là-dessus, puisqu'il faut pouvoir aussi proposer des prix abordables au public, ça reste un équilibre.
Est-ce que vous pouvez nous donner les coordonnées de votre association, les forges d'Autricom? Donc c'est à Chartres, du coup, hein, si ça s'appelle Autricom.
Alors, c'est à Chartres. Le siège social, toutefois, il y est Combray pour l'instant, puisqu'on se débrouille un peu avec les moyens du bord. Mais le siège social sera bientôt à Chartres. Pour l'instant, le siège social est au 18 rue du Breuil, à Hélier-Combray.
Est-ce qu'il y a un forgeron à Chartres?
Il y a des forgerons à Chartres, oui. Vous avez Jacques Manonti, qui est un des forgerons couteliers qui est là, qui est aussi restaurateur de meubles et qui a un magasin dans Chartres.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Quel sent bon le fer et le feu, cette forge d'Autricom. Avant de reprendre notre petit périple dans les allées de Chartres Expo à l'occasion de ces artisanales 2016, écoutons Ben l'Oncle Soul, Soulman. Ben l'Oncle Soul n'est peut-être qu'un soulman, mais quel soulman! On attend avec impatience son prochain album. Et quant à nous, bien reprenons notre promenade aux artisanales. C'était à Chartres Expo du 7 au 10 octobre dernier, le plus grand salon de l'artisanat français, ou en tout cas l'un des plus grands, avec à chaque fois plus de 500 exposants et 150 métiers. Nous en avons vu deux, le chocolat et la forge. Eh bien, ben continuons notre voyage et voyons ce que nous réserve l'avenir.
À mes côtés, Mathieu Roquin,
qui dispose, allez, 1, 2, 3, 4, à peu près de 4 comptoirs ici aux Artisan Hall, et pour cause, puisque vous représentez plusieurs métiers à vous tout seul. Vous êtes l'exploitant de la ferme du Loro, c'est à Anche, et votre particularité, c'est que vous êtes agriculteur et meunier.
C'est ça, effectivement, on a monté un petit moulin sur meule de pierre l'année dernière, et maintenant on transforme tout notre blé, notre sarrasin produit sur l'exploitation en farine via la technique de la meule de pierre.
Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la technique de la meule de pierre ?
Oui, bien sûr. Alors, c'est une technique assez ancestrale. Donc, l'idée, c'est de faire écraser donc, le blé sur des meules, ce qui nous permet de libérer donc, une farine qui est beaucoup plus riche en minéraux et en fibres. Et donc, on retrouve les goûts assez prononcés du froment et du blé noir pour la farine de sarrasin.
L'idée a germé comment, en fait ?
C'est mon père qui avait déjà cette idée dans le coin de la tête parce qu'il était avant dans le milieu de la farine, plus dans le milieu traditionnel. Et puis moi, j'ai fait mes études dans le moulin et petit à petit, voilà, on a construit ça tous les deux et on a mis ça en place l'année dernière.
Et par ailleurs, vous êtes donc agriculteur, alors ?
C'est ça, exactement. Avant de me lancer dans la meunerie, j'ai fait mes études agricoles pour pouvoir connaître effectivement le cycle correct de la production de blé et ensuite la production de farine.
Et donc vous êtes céréalier alors ? Vous produisez vous-même votre blé ? Sur combien de surface à peu près ?
C'est ça, on est céréalier, on a à peu près une centaine d'hectares. On a 40% de blé, on a 20 à 30% de blé noir, de sarrasin. Et puis on fait d'autres cultures parce que nous sommes agriculture raisonnée. Donc on fait des cycles différents sur les parcelles et donc on fait d'autres cultures qui ne sont pas transformées mais qui nous permettent de pouvoir obtenir une qualité et une utilisation des produits phytosanitaires un peu moins que les autres.
Est-ce que vous pouvez justement nous renseigner sur ce qu'est, par rapport à l'agriculture intensive telle qu'on la connaît ici, ce qu'est l'agriculture raisonnée, c'est quoi la différence ?
Alors c'est une gestion globale sur l'entreprise où on diminue les doses d'azote et on diminue les doses de pesticides. Pour preuve, on a notre résultat d'analyse de zéro pesticide sur les blés de cette année. On fait des traitements assez tôt le matin en bas volume, ça veut dire qu'on diminue la quantité à l'hectare de bouillie qu'on met. Et on applique au bon moment le produit afin qu'il soit efficace à 100%. Et donc c'est pour ça qu'on arrive à descendre et à être dans un domaine de certification agriculture raisonnée.
Est-ce que ça veut dire moins de rendement ?
Alors effectivement, on a une petite baisse de rendement, mais nous, comme on transforme, ce qui nous préoccupe surtout, c'est la qualité. Du moment qu'on a un blé qui a un bon rendement de farine, qui est sain à manger, nous, ça nous va.
Vous êtes le seul exemple d'agriculteur meunier, en tout cas en Eure-et-Loire. Je n'avais jamais entendu parler de ça.
Non, il y a d'autres confrères comme nous. Bon, ils sont peut-être à une taille un peu plus petite, mais nous, effectivement, on a ciblé notre activité sur l'artisan boulanger et le meunier qui utilise nos farines. Le meunier en tant qu'ingrédient pour ajouter à sa farine traditionnelle et puis l'artisan boulanger pour développer des produits du terroir.
Ah, vous avez de très beaux pains, là. Ce sont des boulangers qui travaillent avec vous, là ?
C'est ça, ce sont des boulangers qui pétrissent nos farines depuis une bonne année. Et donc là, on a développé pour les artisanales de Chartres la tradition du Loro, une baguette fabriquée 100% avec de la farine type 80.
Ça donne un pain, j'imagine. Pas mauvais du tout.
Non, pas mauvais. Non, ça c'est clair. Pas mauvais, surtout qu'il se conserve assez longtemps. C'est l'avantage des farines de mule, puisqu'on hydrate un peu plus la pâte, donc on augmente la conservation. Et donc par le fait, on arrive à satisfaire le client avec des produits où on revient aux origines. Et ça, c'est vrai que c'est assez... assez prometteur.
Ce sont des démarches qui sont, j'imagine, très prometteuses et des démarches d'avenir parce que, évidemment, les aléas du cours du blé, vous court-circuitez tout ça, vous ?
Exactement. Nous, pour rien vous cacher, on a un prix moyen qu'on s'est fixé de blé sur toute l'année, peu importe ce qui se passe sur le marché à terme du blé. Et donc, c'est ce qui nous permet d'être compétitifs vis-à-vis de nos clients et de respecter... j'ai envie de dire la charte qu'on s'est fixée entre guillemets de producteurs transformateurs du circuit court. C'est l'avantage de notre entreprise, c'est qu'on essaye de tout maîtriser pour avoir des coûts de production assez au moment donné pour que le boulanger puisse se retrouver derrière.
Votre farine est très prisée des boulangers auréliens, vous avez beaucoup de clients aujourd'hui ?
Oui, ça commence à se faire, ça fait un an qu'on s'est mis en place, donc on commence à avoir un réseau assez important. Bon, c'est difficile parce que les boulangers aiment bien travailler avec leur propre meunier. Mais bon, petit à petit, je sais qu'on a une demande de produits locaux. Donc tout doucement, on y arrive.
Est-ce qu'il y a vous faites partie du réseau, par exemple, Terre d'Eure-et-Loire ou d'autres réseaux ?
Oui, effectivement, ça fait déjà depuis 3 ans qu'on fait Terre d'Eure-et-Loire. Depuis cette année, c'est du centre où là, il y a tout intérêt à être labellisé sur ces produits qui nous tracent l'origine et qui prouvent aux gens que ça va bien d'ici.
J'imagine que, alors, évidemment, c'est une entreprise familiale, mais pour il faut quand même du monde, hein, pour être à la fois sur l'exploitation, sur la meunerie, sur la vente aussi, l'aspect commercial. Vous êtes combien ?
Alors, on n'est que deux. On fait des sacrées journées. Mon père s'occupe de la partie agricole et de la partie commerciale. Et moi, je m'occupe de la partie moulin et de la partie livraison. Voilà. On essaye de combler nos journées comme ça.
J'imagine qu'elles sont parfaitement comblées. Vous devez vous lever tôt et vous couchez tard.
C'est ça. Ce matin, j'ai été livré à 3h30 un client et puis me voilà sur les artisanales ce midi pour vous parler. Donc c'est vrai que c'est assez prenant, mais quand on aime et quand on est passionné, ça va tout seul.
Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des caractéristiques de farine? Et si oui, c'est quoi les caractéristiques de votre farine à vous?
Alors nous, on a deux principales produits. On a la farine type 110 et type 80 pour des farines de blé. En fait, c'est la quantité de minéraux que vous avez dans la farine. Plus vous avez un indicateur élevé, type 110, c'est-à-dire que votre farine est beaucoup plus riche en minéraux et en fibres. Donc vous avez une farine un peu plus bille et un peu plus crème, et donc ça donne du goût. Voilà.
Pas de gluten, évidemment, dans les pains que vous faites produire.
Alors, il y a toujours du gluten dans du blé, hein, ça c'est indispensable. En revanche, on n'en rajoute pas. Voilà, on fait des mélanges spécialement conçus pour fabriquer du pain, mais en aucun cas on va rajouter quelque chose derrière pour pouvoir aider le boulanger. C'est le boulanger qui fait le travail.
Vous produisez beaucoup de farine, combien à peu près?
Aujourd'hui, on est à une production de 150 tonnes par an. Voilà. Mais sachant qu'on peut doubler, le moulin il est capable de pouvoir doubler. Donc voilà, tout doucement, on se met en route et on essaye de trouver nos clients.
C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci beaucoup. On va peut-être donner vos coordonnées. Hein, on peut vous joindre au 06 13 57 70 87. Et c'est donc la ferme du Leroux au Paty. C'est à Anches, c'est pas loin de Chartres. Hein. Voilà. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie. À bientôt.
À bientôt. Nous voici devant le stand des formations secteur travaux paysagers et horticulture. Et nous sommes au château des Vaux, qui est propriété de la Fondation des apprentis d'Auteuil. À mes côtés,
Stéphanie Desjardins, enseignante en production horticole.
Stéphanie Desjardins.
Oui.
C'est formidable. Mais dites donc, vous avez bien choisi.
Oui, tout à fait. Brigitte Lorpin, je suis enseignante, je suis professeure principale en première bac pro travaux paysagers et enseignante en matière générale.
Vous allez peut-être nous présenter d'abord ce qu'est le château des Vaux. Pour celui qui ne l'a jamais vu, c'est tout à fait impressionnant évidemment, mais ce n'est pas que beau, c'est très utile.
Donc le château des Vaux, c'est un établissement à caractère social qui accueille environ 720 jeunes, 750 jeunes dans l'Eure-et-Loire, à côté de la Loupe, qui comprend un collège, un lycée professionnel et un lycée professionnel horticole. Donc nous travaillons au lycée professionnel horticole qui compte à environ 150 jeunes. Et qui propose différentes formations, la troisième, le CAPA travaux paysagers et production horticole, le bac pro travaux paysagers et conseil vente en produits de jardin, le CAP fleuriste.
Voilà. Donc de nombreuses formations sous le très beau, très joli nom de Notre-Dame des Jardins. Alors vous m'avez dit, l'horticulture, attention, la production horticole et le paysage, c'est pas du tout la même chose. Alors, en quoi ça consiste, la production horticole?
Alors, ce sont des métiers complémentaires. La production horticole permet la production des plantes à massif, de plantes vertes, de plantes bisannuelles, annuelles, de plants potagers. Donc, les plantes ornementales, généralement, vont après chez les paysagistes pour une mise en scène dans des massifs, dans le parc à la française, notamment.
Et le paysage?
Alors, le paysage comprend deux secteurs d'activité, l'entretien et la création. Donc, l'entretien, ça consiste en la taille, la tonte, voilà. Et la création, tout ce qui est engazonnement, plantation d'arbres, d'arbustes, et tout ce qui est maçonnerie paysagère, comme les murets, les dallages, qui peuvent être créés dans un jardin.
On va dire que le paysagiste, c'est le poète du paysage, quoi, c'est ça?
Voilà, en quelque sorte.
Et donc, évidemment, vous êtes complémentaires l'un de l'autre, puisque c'est vous qui fournissez les paysagistes.
Voilà, tout à fait, c'est ça. C'est deux métiers complémentaires. D'ailleurs, nos élèves, généralement, peuvent suivre les deux. Hein, donc, un cursus qui allie production horticole et paysage.
Alors, quand on s'engage dans ce cursus, qu'est-ce qu'on va faire tous les jours?
Alors, les formations, par exemple, de niveau 5, qui sont des formations de CAP agricole, sont plutôt basées sur la pratique. Donc, toutes les après-midi, les jeunes sont en travaux pratiques. Donc au sein des serres ou au sein du parc à la française pour le paysage. Et le matin, ce sont des matières plutôt générales, donc avec un tronc commun au CAP, hein, donc du français, des mathématiques, de l'histoire-géographie, de l'éducation socioculturelle, etc.
Et pour le paysage?
Alors, ils ont également une partie matière générale, qui a lieu plutôt le matin quand ce sont des formations en CAP et l'après-midi en travaux pratiques sur l'exploitation du lycée horticole parce qu'on a un grand site d'une vingtaine d'hectares avec un jardin à la française et donc la pratique se fait sur notre établissement. Donc nous sommes un établissement en voie scolaire, la pratique se fait dans l'établissement et ils ont également des stages à faire soit en entreprise, soit en service de collectivité.
C'est quoi le profil de l'élève qui sera horticulteur ou paysagiste ?
Alors nous, ce sont des jeunes qui arrivent de 3e. Alors le profil généralement des jeunes qui arrivent aux apprentis data, ce sont des jeunes qui ont une fragilité scolaire. Donc avec effectivement un rapport à la scolarité qui est très compliqué. Hein, donc nous, on a pendant ces 2 années de formation professionnelle le souci de les réapprivoiser sur les matières d'enseignement général et de les former à un métier.
Et quand même, si on est un bon élève mais qu'on souhaite suivre cette filière, on peut venir vous voir quand même ?
Pas de souci, il y a des possibilités, donc soit en CAP, soit en bac pro. Donc ce sont des jeunes en général qui aiment aussi être à l'extérieur, qui aiment beaucoup la nature et il faut aimer le végétal.
Parlons emploi. Est-ce qu'il y a beaucoup de postes aujourd'hui d'emploi disponibles dans ces filières ?
Alors en Eure-et-Loire, c'est vrai qu'on est un petit peu en difficulté sur le domaine de la production horticole. On a des exploitations comme les cueillettes par exemple aux particuliers qui se développent beaucoup, le maraîchage biologique, donc tout ce qui est filière locale en production et en maraîchage, ça fonctionne assez bien, effectivement. Après vous avez les services de collectivité qui là aussi embauchent des jeunes diplômés, compétents.
Peu d'horticulteurs
On a des horticulteurs en production florale, effectivement, les entreprises commencent un petit peu à disparaître du département. Donc après, pour un jeune, effectivement, il faut aller un peu plus loin, être mobile, aller sur la région angevine, par exemple.
Le jardin de la France, ou presque. Hein. Et dans le domaine des paysagistes
Dans le domaine du paysage, il y a également des possibilités, donc en service de collectivité, dans les communes, ou bien dans les entreprises de paysage, voilà.
Et si on parle argent, ce sont des métiers, on s'engage, on en vit bien.
Alors avec un CAP, on est ouvrier qualifié. Alors bon, c'est vrai que généralement un jeune ne s'arrête pas là. Il est de plus en plus amené à poursuivre ses études, soit dans la continuité du CAP, soit à se reformer durant son cursus professionnel. Donc on pourra obtenir effectivement des diplômes supplémentaires et des responsabilités supplémentaires. Voilà.
Oui, un jeune a des possibilités de trouver un emploi dans ce domaine-là. Et effectivement, par exemple, par rapport après un bac pro, il y a des possibilités pour suivre une formation BTS, un certificat de spécialisation, ou bien il y a des jeunes qui directement rentrent dans la vie active.
Merci beaucoup. Je précise que, bon, c'est pas tout de suite, on en reparlera sans doute, mais qu'en 2017, comme chaque année, il y a des journées portes ouvertes. Ce sera samedi 4 mars et samedi 13 mai, donc on pourra admirer vos jardins qui sont absolument magnifique, je les ai vus. En attendant, on peut évidemment vous joindre en appelant au 02 37 53 70 56. Hein. 02 37 53 70 56. Merci beaucoup à toutes les deux.
Merci.
Et voilà, les artisanales 2016, c'est terminé. On retrouvera nos exposants l'année prochaine, bien évidemment. C'est toujours le deuxième week-end d'octobre. Quant à nous, la prochaine édition d'Écho de ma commune et de mon canton, édition Chartraine, eh bien ce sera pour dans 4 semaines, mais je vous retrouve tous les jours, rappelez-vous, à 18h15 pour les infos départementales. Alors, restez-nous fidèles.